Voilà, bah écoutez, c'est un plaisir ce matin de pouvoir, comme nous le faisons chaque dimanche, ouvrir la parole de Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes dans le livre de la Genèse. Et ben voilà, donc nous sommes au chapitre 6. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir. J'ai intitulé mon message ce matin tout simplement « Le déluge et l'arche de Noé ». Première partie, d'accord ? « Le déluge et l'arche de Noé », première partie. Cette première partie que j'ai intitulée la cause ou les causes du déluge. D'accord ? Donc lisons 6, chapitre 6 à partir du verset 1 pour nous plonger dans le texte. Ça, c'était une blague. D'accord ? Ok. Alors, mais merci. D'accord, c'est gentil. Merci. D'accord. Je suis vraiment doué pour ce genre de blague. D'accord ? Ok. Genèse 6, 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et il fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendrant trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu et, j'arrive pas à lire parce que j'ai des notes, et la terre était pleine de violence. Vous savez, j'écris des notes sur les mots, alors j'aurais pu lire après un moment, mais là j'arrivais à lire. Verset 12. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids et en dedans et en dehors. Eh bien, que Dieu bénisse sa parole et quelle section intrigante, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014, un film est sorti en salle de cinéma qui s'appelle Noé. Vous l'avez peut-être vu, comme moi je l'ai vu, film avec Russell Crowe, qui joue le rôle de Noé. Alors c'est vrai que ce film était une grande production hollywoodienne, mais ce qui est étonnant, c'est que le directeur du film, Darren Aronofsky, se dit être athée, et aurait aussi dit de ce film, et je le cite, « C'est le film biblique le moins biblique jamais produit ». C'est ce qu'il a dit lui-même, d'accord ? Donc c'est assez clair. Le film, il faut dire, a redéfini d'une nouvelle manière l'histoire de Noé. C'est dommage. C'est dommage car le récit biblique du déluge et de Noé et de l'arche qu'il a construite est un récit palpitant. Ce que je vous propose donc ce matin pour cette première partie est de parcourir ce récit exactement comme il est ou comme il prétend être, le récit, un récit narratif historique. On va le prendre telle qu'elle. Alors ce matin, comme j'ai dit, j'aimerais examiner les causes du déluge, essayer d'en tirer les leçons pour aujourd'hui. Alors je suis encore dans l'introduction, mais vous verrez que notre plan est hyper simple ce matin. D'accord ? Alors je suis encore dans l'introduction, je voulais juste dire deux, trois mots sur le contexte, vous rappeler, en reculant un petit peu, que nous avons regardé dans le chapitre 4, la lignée 4 et 5, la lignée de Cain, donc Adam et Ève ont eu Cain et Abel. La lignée corrompue ou impie de Cain se trouve dans le chapitre 4, 16 à 24. Et ensuite, nous avons vu la lignée pieuse de Seth. Donc Abel est mort, Dieu a donné un autre enfant à Adam et Ève, Seth, et Seth lignée, c'est la lignée, si vous voulez, pieuse, contraste avec celle de Caïn. Par exemple, nous avons vu dans le verset 26 du chapitre 4, Seth aussi un fils et il l'appela le nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc on voit dans cette lignée vraiment un désir de revenir au Seigneur. Au verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après sa naissance, la naissance de Methuselah, marche avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Donc voilà un homme qui marche avec Dieu pendant 300 ans dans cette lignée fidèle de Seth. Verset 24, il marche avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Lui, il n'a pas passé par la mort, Dieu l'a pris tout simplement un jour. Et encore le verset 29. Verset 28, je n'ai pas lu ces versets, j'aurais dû. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, il lui donna le nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, il engendra les fils et les filles, tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Donc de nouveau, Dieu promet qu'en Noé, il y a aussi de l'espérance et de l'espoir. Et cela nous arrive au chapitre 6. Et le récit du déluge, qui est 6 à 9, chapitre 6 à 9, mais ce récit du déluge commence par ce qui est la portion du livre de la Genèse la plus étonnante, voire la plus surprenante. Alors, je vois oui et non. Ouais. Alors, qui dit oui, qui dit non? Qui dit oui? Qui dit non? Ah non, c'est parce que tu es trop devant. Ah, c'est bon. Là, ça marche maintenant? Ah, donc tout marche. Est-ce que tout le monde est OK? Ça marche? Est-ce que je dois tout recommencer? Ah bon, d'accord. Ah, ça sera un petit peu embêtant, ça, d'accord. Alors, je recommence, enfin, juste trois lignes plus tard, là, plus avant. Alors, comme je disais, le récit du déluge commence par ce qui est probablement la portion du livre de la Genèse la plus étonnante ou surprenante. Regardez le verset 5 du chapitre 6. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Je ne sais pas si vous saisissez ce qu'il est en train de dire. « Je vais tout détruire. » Regardez verset 11, au cas où on aurait mal compris. « La terre était corrompue devant Dieu. » La terre était pleine de violence, Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Écoutez, franchement, là il y a un message entier sur ces versets que je ne vais pas faire aujourd'hui, mais c'est incroyable. Dieu décrète la destruction de toute l'humanité à cause de la méchanceté de l'homme. C'est ce qu'il dit. Alors on s'arrête deux secondes et on se dit, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Mais comment expliquer un tel décret? Apparemment, quelque chose avant ces versets était tellement odieux à Dieu, tellement horrible, tellement abject, tellement ignoble, tellement infâme, que Dieu décide de détruire tous les hommes sur la planète. Alors il y a eu des tas de calculs sur combien d'hommes existaient, moi j'ai entendu des calculs de jusqu'à 5 milliards d'hommes il y avait avant le déluge. On reviendra à ça plus tard. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur la terre. Mais vous dites, mais attends. Qu'est-ce qui aurait pu faire réagir Dieu ainsi? Alors je me suis posé la question. Est-ce que c'était le péché d'Adam et Ève? Non. Non, parce qu'ils ont vécu de nombreuses années après leur péché. Alors est-ce que c'était le meurtre d'Abel et Caïn qui a provoqué ça? Non. Le déluge vient bien plus tard. Ah, peut-être la polygamie de Lamech dans chapitre 4, verset 19. Non, parce que nous voyons encore 10 générations vivre plus tard. Alors fût-ce l'orgueil de Lamech qui se vante d'avoir tué un jeune? Non. Mais alors c'était quoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Dieu décide de détruire tous les hommes et tous les animaux de la terre? C'est une question intéressante, vous ne trouvez pas? Eh bien, la chose ignoble qui a fait réagir Dieu avec la destruction de toute de l'humanité se trouve dans les versets 1 à 2. Dans les versets 1 à 2. Juste deux versets. Mais tenez-vous bien, quel verset? Quel verset? Donc mon plan, mes amis, ce sont que des textes bibliques. Numéro 1, Genèse 6, 1 à 2. Genèse 6, 1 à 2. Regardez ces deux versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, quelle observation à faire vis-à-vis de ces versets ? On apprend que premièrement, les hommes se multipliaient sur la terre. Donc, comme j'ai dit, il y a eu des calculs, toutes sortes de calculs sur combien d'hommes il y a eu sur terre. On reviendra un autre jour sur ce point-là. Bref, il y en avait beaucoup. Ensuite, on apprend que des filles leur sont nées. Verset 1. Ensuite, on apprend, verset 2, que les fils de Dieu voient que ces filles sont belles. Et on apprend que les fils de Dieu prennent pour femmes certaines de ces belles femmes. Ok. Tout semble clair, n'est-ce pas? Ah oui, sauf pour une question. Qui sont les fils de Dieu? Eh ouais, c'est ça la question. Alors les érudits ont conclu qu'il y a globalement deux possibilités, alors il y en a d'autres, mais beaucoup moindres, mais deux grandes si on veut, deux grandes possibilités en ce qui concerne l'identité des fils de Dieu dans Genèse 6, 1 à 2. Alors la première semble être simple à déceler car c'est le contexte qui donne impression de l'affirmer. Ce sont, les fils de Dieu seraient les descendants de Caïn, de la lignée de Caïn. Les fils de Dieu seraient les descendants non-croyants, impie de Caïn, celui qui a tué Abel, et que ses descendants épousent les belles femmes qui, elles, sont descendantes croyantes de Seth, lignée pieuse. Ce serait donc un péché de mixité dans le mariage, des croyants qui épousent des non-croyants. Ceci, selon cette théorie, aurait promu la dégénérescence de la lignée de Seth. Ça, c'est une possibilité. Un petit peu difficile à imaginer qu'après ça, juste ce péché-là, quand on regarde les autres péchés qui le précèdent, aurait justifié le fait que Dieu veuille détruire tout le monde sur la terre. Alors, il y a une deuxième possibilité sur l'identité des fils de Dieu. Une possibilité d'abord, ou qui paraît en premier un peu troublante, mais je vais vous la donner. Les fils de Dieu seraient tout simplement des démons, des anges déchus. Alors bien que le terme fils de Dieu peut se référer occasionnellement dans la Bible à des hommes, il se réfère le plus souvent à des anges. Par exemple, dans Job 1:6, il est dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Des démons. Chapitre 2 de Job, verset 1 « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. » 38:6, Daniel 3:25, plein de versets qui montrent que ce terme peut vraiment parler d'ange ou d'ange déchu. Alors, si c'est le cas, si les fils de Dieu sont les anges, que font-ils exactement ici, dans ce texte? Des anges auraient pris des femmes pour les épouser, hein, et avoir des enfants avec eux? Écoutez, franchement, allez, là on parle, hein, ça fait un peu bizarre, vous ne trouvez pas, franchement? Un peu bizarre, ok. Alors, ça paraît plus bizarre, très bizarre jusqu'à qu'on commence à regarder d'autres textes dans la Bible. Et vous savez, la meilleure manière d'interpréter la Bible, c'est avec la Bible. Avec la Bible. Alors, deuxième point, allez avec moi à 1 Pierre chapitre 3. Je vais vous montrer des textes tout à fait étonnants. 1 Pierre 3. Et le verset 18. Ce texte est remarquable. Je vais lire les versets 18 à 20. Parlant de Jésus-Christ, il est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été j'arrête pas à dire de nous à cause de mes notes. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Vous dites, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique. Ce texte dit que Christ est mort pour nos péchés, comme vous le savez, puis il est ressuscité 3 jours plus tard. Pendant la période entre sa mort et sa résurrection, Jésus est allé en esprit prêcher aux esprits en prison. C'est-à-dire aux démons qui sont liés dans l'abîme. On viendra dans 2 secondes par rapport à ça. Donc, ils descendent dans cet endroit où il y a des démons pour, nous dit le texte, prêcher. Prêcher. Alors, le mot ici pour prêcher n'est pas le mot pour prêcher la bonne nouvelle, en grec, evangelion. Mais kérousso, qui décrit l'acte de déclarer une vérité. Ici, Christ n'est pas allé annoncer l'évangile aux démons, puisqu'ils ne peuvent pas être sauvés, mais leur déclarer la victoire sur le péché et le diable, et leur déclarer l'éternité de leur condamnation en enfer. Alors c'est intéressant, dans Colossiens 2, je vais juste vous lire, 2:15, il est dit ceci, « Il a dépouillé, parlant de Jésus, les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Donc, ce verset montre que Jésus a vaincu Satan et les démons à la croix. Mais dans Luc 8, dans Luc 8, il y a l'histoire du démoniaque de Gérasa. C'est un démoniaque qui a plein de démons en lui. Et regardez dans Luc 8, à partir du verset 29, il est dit « Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens, il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion » répondit-il, « car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Qui veut dire que Jésus parle à ces démons qui sont dans cet homme, et ces démons disent, écoute, s'il te plaît Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui existe déjà, où il y a des démons, ils le savent et ne veulent pas y aller, maintenant. Qui veut dire qu'il y a déjà un endroit qui existe, cet endroit qui s'appelle l'abîme, où il y a des démons déchus. Ils y sont déjà. Pas tous. Il y a beaucoup de démons qui ne sont pas encore là. Donc il y a deux types de démons, si vous voulez. Alors dans 1 Pierre 3, 19 et 20, regardez, il est dit que Jésus est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc 1 Pierre 3 dit que ces démons à qui Jésus est allé proclamer sa victoire étaient des démons qui avaient péché, écoutez bien, par incrédulité lors de la construction de l'arche à l'époque de Noé. Vous voyez, il y a un lien direct ici entre les démons en prison que Christ a visités et Noé. C'est quand même étrange. Eh bien, ces démons, nous apprenons, avaient outrepassé à l'époque de Noé la patience de Dieu à leur égard. Et donc, nous voyons tout simplement que le péché de ces démons est lié contextuellement à l'époque de Noé. Donc, quelque chose par rapport à ces démons est lié à l'époque de Noé. Voilà ce qu'on apprend dans ce texte. 3. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. On y va. De Pierre 2, verset 4. Alors ici, Pierre est en train d'écrire vis-à-vis de faux prophètes dans le chapitre 2, et il dit ceci au verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. » On peut s'arrêter là. Regardez verset 4 de nouveau. Il dit « Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans l'abîme de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Intéressant. Pierre décrit des faux docteurs et leur condamnation certaine. Et pour souligner l'erreur de leur condamnation, il fait le lien avec verset 4 et il dit qu'il y a des anges qui ont péché et que Dieu a déjà précipité dans l'abîme des ténèbres pour le jugement, pour attendre un jugement à venir. Donc, il y a l'abîme des ténèbres, où sont envoyés certains démons, maintenant déjà, qui attendent le jugement final. Et c'est intéressant qu'au verset 5, il lit cela de nouveau au déluge, à Noé. Donc, ce qu'il est en train de dire, il dit, en fait, c'est le résumé du chapitre 2, « Faux docteur, faites attention, ce qui vous fait est dangereux, le jugement est certain, comme les démons ont été jugés, vous le saurez aussi. » Ce qu'il est en train de dire là. Vous suivez, ça va? Tellement intéressant, je trouve. C'est pas fini, Jude. Allez avec moi, Jude. Ça, c'est le quatrième point. Quatrième point, Jude. Jude 5 à 7. On va revenir à Genèse. Vous allez vous dire, mais ça a quoi à voir avec Genèse 6? Ça a tout à voir avec Genèse 6, d'accord? Jude 5, regardez. « Je veux vous rappeler, vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. » Aujourd'hui, il faut s'accrocher. J'espère que vous accrochez, d'accord? Écoutez, ce texte, il est tout à fait étonnant. Aussi étonnant que les deux autres. Car il dit que certains anges déchus attendent le jugement du grand jour, mais qu'entre-temps, ils sont déjà enchaînés éternellement par les ténèbres. Mais regardez la nature de leur péché qui est décrit ici au verset 5. Je veux vous rappeler, vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Apparemment, une référence au déluge. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines se livrèrent comme eux à la débauche et des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc Jude est en train de dire ici, en fait il est en train de faire le lien clair entre le déluge, fin du verset 5, et le péché de Sodome et Gomorre, et le péché de ces anges qui sont déjà enchaînés. Il y a un lien direct ici entre le péché de ces anges, écoutez bien, et le péché de Sodome et Gomorre. Verset 7. La débauche et des vices contre nature. Il fait le lien, ils sont dans la même phrase. Il dit quelque chose s'est passé à Sodome et Gomorre, pareil qu'avec ces anges qui sont déjà enchaînés. Alors, quel fut ce péché? Je viens de le lire. Ils se livrèrent à la débauche et à des vices contre nature. Alors, écoutez, Sodome et Gomorre sont connus aujourd'hui, et même dans le vocabulaire courant, pour la sodomie. Sodome et Gomorre, sodomie. C'est intéressant qu'au verset 6 de Jude, il lit... verset 6, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc ces anges déchus ont abandonné leur propre demeure pour se livrer eux aussi à une débauche et à des vices contre nature. Voilà ce qu'il est en train de dire Jude. Ouais. J'étudiais tout ça, puis je me suis dit, waouh! La condamnation, selon Jude 7, c'est la peine d'un feu éternel. C'est pas rien. Alors avec ça, retourne à Genèse 6. Tout ce que j'essaie de montrer, prouver ici, c'est que verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, ce que j'ai essayé de montrer que ce terme, fils de Dieu, se réfère à des démons. À des démons. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il semble qu'un Pierre et Jude font référence à cet incident. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on interprète? Des anges qui se sont rebellés avec Satan, Apocalypse 12. Certains de ces anges déchus sont descendus sur terre et ont cohabité sexuellement avec des belles femmes. Ben, je sais ce que vous allez vous dire, mais John, c'est pas possible. Parce que Marc 12 est clair sur ce point-là. Marc 12, 25 dit ceci. Car Jésus dit à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Et tout le monde est d'accord de dire que ce texte semble indiquer que les anges n'ont pas de sexe. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mariage au ciel. Alors comment est-ce que c'est possible, si c'est le cas, que des anges viennent cohabiter avec des femmes? Ils auraient pris le contrôle de corps d'hommes, apparemment, on ne sait pas exactement où ils n'étaient pas, et auraient ainsi cohabité avec de belles femmes. Alors c'est intéressant, on sait très bien que les démons veulent absolument posséder des corps. Ils préfèrent des corps humains. Ils veulent posséder des corps humains, mais dans le cas où ils ne peuvent même pas être dans les corps humains, ils sont d'accord même de passer dans les corps d'animaux. Vous vous rappelez certainement dans Marc 5, verset 11, c'est l'histoire des pourceaux. Vous vous rappelez, il y a un homme, un démoniaque avec apparemment jusqu'à 2000 démons en lui, on ne sait pas exactement, mais à un moment donné, il y a ces discussions, et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi et Jésus, fils de Dieu, du Dieu très haut ?» Donc ce démon parle à Jésus, ils ont une conversation. Donc ça ou ces démons sont à l'intérieur de cet homme possédé, il y a une discussion avec Jésus et cet homme possédé. Il dit, il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» et lui demanda, « Quel est ton nom ? Légion est mon nom !» Il lui répondit, « Car nous sommes plusieurs !» Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux !» Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. C'est incroyable. Vous dites, mais John, franchement, tu crois vraiment cette histoire ? On doit vraiment se poser ça comme question. Écoutez, un commentateur a dit ceci, je trouve assez intéressant comme réflexion. Je le cite, je le cite à peu près, disons, largement, parce que je voulais que ça soit clair pour moi. Voici ce qu'il dit. Voici ce que nous savons être vrai. Voici une certitude. Le Saint-Esprit a cohabité avec Marie pour créer Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cela a été le seul moyen pour créer un Sauveur qui était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Il fallait que ce Sauveur puisse prendre sur lui notre péché. Notre péché est une offense contre qui ? Contre Dieu. C'est donc Dieu seul, Dieu incarné, qui peut nous pardonner nos péchés en prenant sur lui notre condamnation. Il fallait donc que ce Sauveur soit Dieu incarné. La naissance virginale était le moyen de le faire. Alors si cela est vrai, alors je ne conteste pas, moi je le crois ça à 100%. Alors, ne peut-on pas imaginer qu'un démon puisse posséder un corps humain pour lui faire faire des perversions morales et sexuelles ? Nous voyons des démons dans la Bible faire toutes sortes de choses horribles à des gens. Ils ont une grande puissance. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette interprétation des anges déchus est celle qui fut retenue par des exégètes juifs les plus anciens. C'est l'interprétation de livres extra-bibliques comme 1 Enoch, le livre de Jubilé. C'est aussi l'interprétation de la Septante, ainsi que les écrits de Philon, de Joseph. C'était un philosophe, d'accord ? Très très connu, d'accord ? Et même les manuscrits de la Mer Morte. Donc bien que cette interprétation semble à première vue un peu bizarre, c'est celle-ci qui semble la plus plausible au plus grand nombre de commentateurs. Même les premiers chrétiens comme Clément d'Alexandrie, Tertulle et Origène, ouais, c'est compliqué les mots, hein, ouais, les noms surtout, ces gens aussi adoptent cette interprétation. Donc elle n'est pas aussi farfelue si on se réfère un petit peu à ceux qui ont déjà eu cette interprétation avant nous. Comment conclure donc ? Eh bien, cette interprétation me semble, moi, la plus plausible pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et ce que je trouve intéressant, et ça c'est une des raisons qui me fait croire ça, c'est que la suite de ce péché, c'est quoi ? C'est que Dieu décide de détruire le monde par un déluge. C'est comme si ce péché était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase aux yeux de Dieu. Donc après, tout le péché qui existait déjà dans le monde, ce péché en particulier, était tellement haineux aux yeux de Dieu que Dieu décide l'extinction de tous les hommes sur la terre à ce moment-là par un déluge. Donc ce péché n'est pas juste un péché sexuel. Il est particulièrement horrible, tordu, qui justifie la destruction de tous les hommes sur la terre. Des démons qui, d'une manière ou une autre, cohabitent avec des femmes pour produire des enfants. Alors retournons à Genèse 6 à partir du verset 3. Maintenant, la suite, elle est vraiment claire. C'est le dernier point. Verset 3. Alors, ça veut dire quoi? Suite à ça. Voici ce qui provoque le alors. Le alors, c'est une conclusion par rapport à quelque chose qui vient d'arriver. Alors, à cause de ce qu'on vient de voir, l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu est en train d'annoncer son jugement. Le jugement de Dieu tombe, il veut ôter son esprit de l'homme, le faire mourir. Il donne à l'homme 120 jours. Alors, il y a deux interprétations. La dernière fois, j'ai expliqué que ces 120 jours, c'était les 120 ans, c'était à partir de maintenant la norme maximale de l'âge d'homme suite à la chute. D'autres pensent que c'est la période de temps depuis le décret jusqu'au déluge, 120 ans. Bref, quel qu'il en soit, Dieu est en train de décréter ici le jugement. Verset 4, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. » Et en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur avaient donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. De nouveau, ce verset intrigue. Il nous dit qu'il y a des géants qui étaient sur terre. Je ne trouve pas que c'est super la Bible quand même. Et des héros, en effet, ouais. Le mot ici pour géant, c'est Néphilim, celui qui est déchu. Et la traduction grecque de l'hébreu, c'est gigantesque, grand, géant. Alors, note bien, qu'est-ce qu'on apprend exactement? Qu'ils existaient avant et après le péché avec les fils de Dieu. Hein, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Donc, ils existaient déjà avant et après, apparemment. Qu'ils étaient considérés des héros fameux dans l'Antiquité, ils furent venus vers les filles, les hommes, et qu'elles eurent donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors certains veulent faire un lien avec Goliath, avec les géants que Josué et Caleb ont vus dans la terre promise quand ils sont montés, vous vous rappelez? Mais le problème, c'est qu'après le déluge, il n'y a pas trop de géants qui restent sur terre, puisqu'il n'y avait que 8 personnes qui ont survécu. Question se pose, est-ce que ces géants étaient la progéniture du péché sexuel décrit dans les versets 1 à 2? Pour ceux qui étaient suite à ce péché. Possible, mais alors comment expliquer leur présence avant? Ce qui est certain, c'est que leur mention ici les lie clairement au déluge. La progéniture des anges avec les femmes semble être une race d'hommes de taille anormale. Donc il y a quelque chose d'encore plus vicieux dans tout le truc. Alors la suite est logique. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez, des fois on entend dire, ah, est-ce que le monde a été aussi pire qu'aujourd'hui? Tout va tellement mal aujourd'hui. Hein, vous entendez ça constamment. Les choses vont de mal en mal en mal. Pire, pire, pire. Est-ce que c'était pire que là? La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. J'ai l'impression que c'était bien pire avant. C'est dingue quand même, hein? Donc le jugement est décrété, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé dans son cœur. Alors bien sûr, le mot repentance n'implique pas que Dieu dit « Ah, j'ai péché », ça n'a rien à voir, c'est simplement qu'il a changé d'avis. Il a changé d'avis, mais ce n'est pas un péché. Ça révèle une tristesse, un regret d'avoir créé l'homme, parce qu'il voit que l'homme est vraiment mal. Bien sûr, Dieu est sans péché, il est parfaitement saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, Ésaïe 6. Il est affligé. Verset 7, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Dieu, vous rappelez ce que c'est le thème de la Genèse? La grâce. Vous rappelez? La grâce. Vous dites, voilà, il n'y a pas trop de grâce. Tout le monde périt. Oui, il y a de la grâce. Regardez. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ouf. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Le seul autre homme dont il est dit ceci de cette manière, c'était Enoch, juste avant, qui marchait avec Dieu pendant 300 ans. Oh, mes amis, si vous voulez voir la grâce de Dieu, elle est là. La grâce de Dieu, elle est toujours plus belle au milieu du chaos total. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais regardez verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, qui était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Mais la grâce de Dieu, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois. Construis un bateau. C'est quand même incroyable. Il n'avait jamais vu de la pluie de sa vie, il n'avait jamais vu un bateau de sa vie. Jamais. C'est même parce qu'il construisait. Fais un bateau. Un bateau. Vous voulez voir la grâce de Dieu? Allez avec moi, Luc 3. Luc 3. J'espère qu'après cette étude de Genèse, vous n'allez jamais, plus jamais de votre vie sauter une généalogie. Je vous en montre encore une, c'est absolument génial. Est-ce que vous avez déjà lu une généalogie à l'envers? On va le faire. Ici, c'est la généalogie de Jésus au travers de Marie, sa mère, qui commence au verset 23 de Luc 3 jusqu'au verset 38. D'accord? Donc, vous voyez que le verset 23 commence avec le mot Jésus. Le verset 38 termine avec le mot Fils de Dieu, juste avant ça, Adam. Donc, on est en train de voir la généalogie de Marie, de qui est né Jésus-Christ. Amen? Regardez, verset 38, tout a commencé avec Adam. Verset 34, Abraham. Ah ouais, mais attendez voir, j'ai oublié un nom. Verset 36, Noé. Noé. Écoutez, sans Noé, il n'y aurait jamais eu Abraham. Et sans Abraham, verset 31, il n'y aurait jamais eu le roi David. Et sans le roi David, eh bien, il n'y aurait jamais eu tous ces autres noms, jusqu'au verset 23, Jésus. Voyez-vous ce qui est génial, mes amis? C'est que Dieu est un Dieu de grâce. Oui, il décrète la destruction de la terre, mais il sait très bien que la clé, c'est son fils Jésus-Christ, le Messie qui avait été prophétisé dans Genèse 3,15 déjà. Ah, dis donc. Donc, l'arche de Noé, ce n'est pas qu'une belle histoire pour des enfants avec des girafes et des hippopotames et des éléphants. Alors, c'est sympa, on est d'accord. Il y a même, je crois, sur l'image derrière moi, des éléphants et des girafes qui dépassent du bateau, non? Non, c'est Dieu qui a un plan pour l'humanité. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de sa grâce est en Jésus-Christ. Et son plan ira jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée du Messie et le retour du Messie un jour pour prendre les siens. La clé, c'est Jésus-Christ, mes amis. C'est Jésus-Christ. Alors, vous posez la question, mais comment elle était cette arche? Comment est-ce que Noé l'a construite? De quelle taille fut-elle? Combien d'animaux étaient sur l'arche? Est-ce qu'il y avait des dinosaures sur l'arche? Ah! Écoutez, pour avoir toutes les réponses à ces questions, il faudra revenir le 12 mars. D'accord? 12 mars. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, juste quelques leçons pour terminer avant qu'on passe à la Sainte Cène, d'accord ? Quelques leçons. Quelques leçons très importantes. Écoutez très bien. Numéro 1. Écoutez bien. Numéro 1. Dieu punit le péché. Dieu punit le péché. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mort physique et mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu punit encore le péché. Deux. Les péchés sexuels sont odieux pour Dieu. La norme pour Dieu, vous savez, beaucoup de gens disent « Ah, mais vous les chrétiens, Dieu est anti-sexe. » Écoutez, franchement, j'ai toujours dit ça. Non, je corrige. Dieu est pro-sexe. C'est lui qui a inventé le truc. D'accord ? Je crois que c'est important de le noter. Il est 100% pro-sexe. Genèse 1, 28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Je sais pas, ça me paraît hyper clair là, non ? Et 2, 24 dit quoi ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient nus, tous deux nus, ils n'en avaient point honte. La nudité apparaît dans le chapitre 2, sans honte. Hébreux 13, 4 nous dit en un verset la norme de Dieu pour la sexualité. On a déjà vu toutes ces choses, mais je les répète maintenant parce que c'est le but du texte ici. Enfin, une des applications. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. La norme de Dieu, elle n'est pas compliquée, c'est le mariage. Ben voilà, je sais pas. C'est clair. C'est clair. Et si tu décides, ou si quelqu'un décide de faire contre ce que Dieu dit, prépare-toi aux conséquences. Il y aura des conséquences tôt ou tard. Il y en a toujours. Toujours. Trois. L'enfer existe. C'est là que je parle mon cœur. C'est une doctrine, mes amis. C'est drôle de le dire, je la déteste humainement. Tout en moi veut trouver un moyen de l'ôter de la Bible. Ce serait tellement plus simple. Mais si je fais ça, je dois carrément changer la parole de Dieu. Jésus a dit, Matthieu 25, 41, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Il y a un endroit où les démons sont actuellement, certains des démons, en train de souffrir, et un jour ils iront dans le feu éternel. C'est pareil pour les hommes. Il est dit dans Apocalypse, 20, verset 13, « La mer rendit les morts qui étaient en elle. » C'était, je continue, « Et la mort et le séjour des morts rendirent la mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Aujourd'hui, les hommes qui rejettent Christ vont dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts, où ils souffrent. Lisez Luc 16. Et tout ça, ils attendent le grand jour du jugement du trône blanc de Dieu. Et là, ils seront tous jetés dans le feu éternel qui a été créé pour Satan et ses anges. Donc à la fin des temps, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous dit, Dieu va prendre tous ces anges qui aujourd'hui sont déchus et souffrent. Il va prendre tous les hommes dans le séjour des morts qui aujourd'hui sont là et en train de souffrir. Il va tous les prendre, les juger et les jeter dans le feu éternel. C'est pas moi qui l'invente, c'est le texte qui le dit. Quatre. Les démons existent et ont une très grande puissance. Ne sous-estimons pas leur pouvoir. Alors je pense personnellement, selon Galates 2:20, qui dit ceci, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et je vis maintenant dans la chair, je vis la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je pense, c'est mon opinion personnelle, que si Jésus-Christ est en toi, il n'y a pas la place, ni pour un démon, ni pour Satan. Alors il peut nous attaquer, ah ça oui. Jésus a dit à Pierre, il a demandé de t'attaquer. Ah, il peut nous attaquer, sûr et certain, mais il ne peut jamais nous posséder. Mais si tu n'es pas chrétien, si Christ n'est pas sur le trône de ta vie, alors là, là il y a un risque. Ce n'est pas une tactique pour te faire peur, je dis tout simplement ce que je pense la Bible enseigne. Les démons existent, ne sous-estimons pas leur pouvoir. Et dans plein de domaines, et ça mérite toute une autre étude. 5, et je termine avec ceci. Ah, heureusement, Dieu est un Dieu de grâce. Ah, j'ai des frissons là. Ah ouais. Oui, Dieu punit de manière radicale le péché. Ça, on l'a vu. On va le voir. Mais il offre une solution au verset 8. Noé, l'arche. Et tout ça, ça pointe au Sauveur. Tout ça, ça pointe au Sauveur. Vous savez que beaucoup de commentateurs pensent que Job est le premier livre qui a été écrit dans la Bible, même avant Genèse. Écoutez ce que Job dit dans Job 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai, et il me sera favorable, mes yeux le verront et non son un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Waouh, voilà le chrétien, voilà notre espérance. Je languis de voir mon Sauveur tête à tête. Est-ce que c'est ton espérance? Est-ce que tu connais Christ? Je prie de tout cœur que oui. Et sinon, demande-lui aujourd'hui de devenir ton Sauveur et ton Seigneur. N'attends pas. N'attends pas. C'est trop dangereux d'attendre. C'est trop dangereux. Inclinons-nous et préparons-nous pour la scène, d'accord ?